Voilà, chers amis auditeurs de Radio Maria France, comme annoncé, on retrouve donc tout de suite Franck Bétoir pour cette émission mensuelle, cette émission La France et Marie. Voilà, Franck, bonsoir, bienvenue sur Radio Maria France.
Cher Jérôme, bonsoir.
Voilà, Franck, je vous laisse donc l'antenne.
Oui, chers amis auditeurs de Radio Maria, c'est une grande joie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre série consacrée cette année à la France et Marie, notre maman du ciel. Lors d'un précédent épisode de notre série, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur notre site radiomaria.fr, nous nous étions souvenus ensemble du fameux vœu du roi Louis XIII. Nous sommes au XVIIe siècle. Ce vœu du roi Louis XIII de consacrer sa personne et tout son royaume à la Vierge Marie. C'est par un acte juridique enregistré par le Parlement et ayant force de loi que le roi, réputé toujours victorieux, Louis XIII, consacre officiellement la France à Marie en ce 10 février 1638. Alors écoutons tranquillement ce vœu de Louis XIII qui est alors âgé de 37 ans. Nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis. Nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de Sa Majesté divine, que nous adorons en trois personnes, Louis XIII fait référence ici à la Trinité, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption. Le fait que Louis XIII ici fait référence à ce grand mystère théologique de la rédemption, que le fait que Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Je continue. Ce vœu de Louis XIII, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous. Louis XIII fait référence ici au grand mystère de l'incarnation, à Noël, lorsque Jésus prend chair parmi nous, et à ce Fils, à Jésus donc, par sa mère élevée jusqu'à lui, sa mère élevée jusqu'à lui. Louis XIII fait référence, et puis l'ensemble des ecclésiastiques, des évêques qui l'ont aidé à rédiger cet acte de consécration, il fait référence au beau mystère de l'Assomption, lorsque notre maman du ciel, la Vierge Marie, a été élevée jusqu'au ciel, jusqu'auprès de Dieu. Je poursuis toujours ce très beau vœu de Louis XIII, en ce début du XIIIe siècle, ce premier tiers du XVIIe siècle, pardon, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, Louis XIII fait référence ici à Dieu, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties, agréables, et ces choses bien raisonnables, qu'ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles, Louis XIII parle de la Vierge Marie, évidemment, elle le soit de nos actions de grâce. Remarquez cette très belle formule de la Vierge Marie qui a été digne de le porter, de porter Jésus, et qui donc apportera ce vœu comme une hostie agréable à Dieu le Père. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, et ici Louis XIII parle de la France, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis que soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Fin de citation, fin de ce magnifique vœu de Louis XIII, prononcé officiellement le 10 février 1638. Alors pourquoi un tel vœu? D'abord, Louis XIII, roi de France de 1610 à 1643, a une dévotion personnelle très forte envers Marie, qu'il vénère particulièrement au sanctuaire de Notre-Dame de Cléry. On a déjà évoqué ce très beau sanctuaire dans notre série d'émissions, qui est une sorte d'album de famille, et puis également album de sanctuaire en France, où la Vierge Marie se sent comme chez elle. Notre-Dame de Cléry, nous sommes dans le Loiret, à 15 km au sud-ouest d'Orléans. Ensuite, autre raison pour l'existence d'un tel vœu, c'est que Louis XIII explique lui-même les raisons de cette consécration de la France à la Sainte Vierge par un long paragraphe introductif que je n'ai pas lu. Déjà, c'était déjà assez long. Alors, dans ce paragraphe introductif, il y énumère les grâces si évidentes reçues de Dieu, les effets merveilleux de sa bonté, c'est les mots même de ce vœu, qui, je poursuis une autre citation, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre état. Alors Louis XIII cite la protection divine face aux révoltes et aux divisions lors de son accession au trône, il n'avait que 9 ans, et puis pendant son règne. Il évoque aussi ses victoires face aux protestants, comme lors du siège de La Rochelle, ou ses victoires contre les ennemis de l'extérieur, c'était les Espagnols pendant la guerre de 30 ans, notamment suite au siège victorieux de Corbie dans la Somme le 10 novembre 1636. Enfin, le roi Louis XIII décide aussi, une fois qu'il a prononcé ce grand vœu de consécration de sa personne et de tout le royaume à la Vierge Marie, il décide d'instituer la solennité de l'Assomption le 15 août comme nouvelle fête nationale, entre guillemets. Il demande en effet à tous les archevêques de son royaume de célébrer la fête de l'Assomption et de développer la dévotion mariale auprès de tous les Français. Les contemporains sont stupéfaits de la joie du peuple et du déluge de grâce qui comble alors la France à la suite de ce vœu. On a des sources historiques là-dessus. L'ambassadeur de la Suède, par exemple, protestante, écrit l'année même de ce vœu de Louis XIII, consacrant son royaume à Marie, la France, notre France, je le cite, « Jamais aucun peuple, dans aucune occasion, n'a montré plus d'allégresse. C'est une grande et sûre preuve d'amour des sujets pour leur roi quand ils accueillent avec de tels transports d'être gouvernés par sa postérité. » La reine Anne d'Autriche, après 22 ans de mariage, met au monde le 5 septembre 1638, quelques mois après cette consécration, le fils tant attendu. On lui donne le nom de Louis Dieu donné en mémoire de ce miracle. C'est le futur Louis XIV, dont le règne de 72 années de 1643 à 1715 sera le plus long de notre histoire. Cette naissance a été annoncée par la Vierge Marie elle-même le 3 novembre 1637 à Notre-Dame des Victoires, un certain Denis Antome, frère fiacre de Sainte Marguerite en religion, qui est âgé de 37 ans et qui est un convert du monastère des Augustins, voit la Sainte Vierge à 4 reprises. Alors que le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche tardaient à avoir un enfant, Marie présente un enfant au frère fiacre en disant « Ce n'est pas mon fils, Jésus, mais l'enfant que Dieu veut donner à la France. » Marie demande 3 pèlerinages à la reine, l'un à Notre-Dame de Paris, la cathédrale, le second à Notre-Dame des Grâces à Cotignac, en Provence, et le troisième, le dernier, à Notre-Dame des Victoires à Paris. Ce dernier sanctuaire, Notre-Dame des Victoires, a d'ailleurs été fondé par le même roi Louis XIII en 1629 en reconnaissance pour la fin heureuse du siège de La Rochelle. À la fin du XIXe siècle, notre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est guérie pendant une neuvaine à Notre-Dame des Victoires, dont la statue au pied de son lit lui sourit. Elle vient, une fois qu'elle est guérie, elle vient, Sainte Thérèse de Lisieux, nous sommes au XIXe siècle, elle vient au sanctuaire Notre-Dame des Victoires à Paris et elle déclarera « C'est là que la Vierge me dit clairement que c'était bien elle qui m'avait souri et m'avait guérie. » Alors au XVIIe siècle, au temps de Louis XIII et de Louis XIV, frère Fiacre décrit le sanctuaire Notre-Dame des Grâces de Cotignac en Provence qu'il n'a jamais vu, moyennant quoi l'on croit à sa vision. C'est l'occasion pour nous de nous réjouir de l'apparition de Marie à Cotignac, dans le Var, au début du XVIe siècle. Nous remontons un petit peu l'histoire. Nous sommes en 1519. La Provence est française depuis 38 ans. Les habitants de la baronnie de Cotignac, laborieux et profondément chrétiens, savourent la paix retrouvée, garante de prospérité. L'humanisme païen qui séduit les élites en ville citadine n'a pas encore cours dans les campagnes et la catholicité ne connaît pas encore les déchirements imminents que provoquera la réforme protestante amorcée par Luther 2 ans auparavant, en 1517. Le matin du 10 août 1519, le bûcheron Jean de la Baume gravit les pentes du mont Verdaille pour y effectuer une coupe de bois. Le soleil est encore supportable dans la senteur du thym et de la lavande, et bientôt les cigales vont se mettre à crisser. Arrivé à l'endroit où il doit travailler, il reprend souffle, contemple les magnifiques collines qui ondulent à perte de vue, puis s'agenouille pour commencer sa journée par la prière. À peine s'est-il relevé qu'il voit devant lui, dans une nuée éclatante, une dame majestueuse, debout, sur un croissant de lune, portant un enfant dans ses bras. 3 personnages l'entourent, en qui le bûcheron reconnaît Saint Bernard de Clairvaux, un personnage que vous pouvez retrouver dans une précédente émission, grand amoureux de la Vierge Marie, fondateur de la proche abbaye cistercienne du Toronnet. Et puis, à côté de lui et de cette belle dame, Sainte Catherine d'Alexandrie et enfin l'archange Saint Michel. La dame s'adresse à lui. « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame de Grâce, et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Jean de la Baume n'a pas le temps de réaliser ce qui lui arrive, déjà la vision a disparu. Serait-ce une hallucination ? Il se met au travail, mais toute la journée, l'image s'impose à sa mémoire, les paroles résonnent en lui. Le soir, il redescend au village, bien décidé à ne souffler mot à quiconque de cette apparition. Le lendemain matin, l'apparition se reproduit au même endroit. Cette fois, le bûcheron redescend au village pour informer le clergé local et les consuls, on dirait aujourd'hui le maire et puis les conseillers municipaux, qui accordent foi à la parole de cet homme considéré comme pieux et sérieux. On organise une procession à laquelle participe tout le village, puis on entreprend l'édification d'une chapelle. Le 14 septembre, en creusant les fondations, on met à jour quantité d'ossements, des clous, des ferrailles, des boîtes d'ivoire et une boule de beau cristal, ce qui laisse penser qu'il y avait là des martyrs enterrés. Et d'ailleurs, cela n'aurait rien d'insolite. La Provence, très anciennement christianisée, a connu les grandes persécutions romaines des premiers siècles. En même temps, des guérisons, des grâces se produisent et les fidèles accourent en nombre. Les villes voisines, Aix, La Valette, Brignoles, Aubagne, dépêchent des députations, notamment en 1522, lorsque la peste menace la région. Cotignac sera toujours épargné par ce fléau de la peste, même lors de la grande épidémie de 1720. L'apparition de la Vierge, par sa sobriété, par la présence de Saint Bernard, très vénéré dans la région, de Sainte Catherine et de l'archange Saint Michel, deux des voix de Sainte Jeanne d'Arc, à la fin du Moyen-Âge, touchent le petit peuple. Les pèlerinages se succèdent sans interruption. Le sanctuaire primitif, bientôt trop petit, exigu, est agrandi en 1537. Et un siècle plus tard, notre fameux frère diacre, religieux de Paris, que nous avons déjà évoqué, a une vision donc de Marie Notre-Dame de Grâce qui lui annonce la prochaine venue du dauphin, du fils de Louis XIII que la France attend depuis 22 ans. Le couple royal, Louis XIII et la reine Anne d'Autriche, vont attribuer à l'intercession de la Vierge de Cotignac la naissance de Louis XIV. Qui, lui-même, en 1660, il est alors âgé de 22 ans, Louis XIV, viendra en Provence effectuer avec sa mère un pèlerinage d'action de grâce à Marie, Notre-Dame de Grâce. Cette même année 1660, Saint Joseph apparaît au berger, au pâtre Gaspard Ricard, sur les pentes du Bessillon, juste en face du Mont Verdaille, où il y a eu l'apparition de la Vierge Marie. Et il fait jaillir une source. Le prodige stimule l'afflux des fidèles que seule la destruction des sanctuaires durant la Révolution arrêtera quelque peu. À présent, les lieux rebâtis en 1811 et notamment réaménagés accueillent les pèlerins. Aujourd'hui, les frères de Saint-Jean desservent ce beau sanctuaire de Notre-Dame de Grâce. Ils sont là depuis 1981, tandis que les moniales bénédictines, rapatriées en 1975 de Médéa en Algérie, assurent dans le monastère de Saint-Joseph de Bessillon en face une prière contemplative ininterrompue. Et depuis le 19 mars 2019, la communauté Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, des sœurs de l'Institut Mater Dei se sont installées au Bessillon pour continuer l'œuvre des sœurs bénédictines. Le site se prête par son calme et sa beauté à un séjour de retraite, mais également de vacances dans ce beau cadre, notamment pour les familles. Chers amis auditeurs de Radio Maria, alors, revenons à notre XVIIe siècle, si riche de ce lien très fort entre la Vierge Marie et la France. Cinq années après la consécration de Louis XIII et de la France à Marie en 1643, Marie, Notre-Dame de Fourvière, va protéger Lyon contre la peste. Et un contemporain, quelques années après, en 1647, écrit « Depuis ce vœu de Louis XIII, la France a ressenti les effets de cette puissante protection. Toutes nos affaires reprirent avec tant de bonheur qu'il semble que ce soit un songe ou que nos ennemis aient perdu cette haute estime qu'ils se donnaient à vouloir faire la loi à toutes les nations et surtout d'humilier la nôtre. Mais l'un des sommets de la manifestation de la bienveillance, de la sollicitude, de l'amour, en un mot, de Marie pour la France, est atteint dans la deuxième moitié de ce même XVIIe siècle, entre 1673 et 1689, lorsque Jésus apparaît à Paray-le-Monial, nous sommes en Bourgogne, en Haute-Saône, à une petite religieuse de l'ordre de la Visitation, Sainte Marguerite Marie à la Coque. Enfant, elle est née en 1647, elle récite le rosaire en baisant le sol à chaque ave. Elle fait le vœu à la Sainte Vierge de se consacrer dans la vie religieuse et guérit aussitôt de la paralysie qui l'a frappée. Sainte Marguerite Marie à la Coque est gratifiée d'une trentaine de visions de la Sainte Vierge. Elle bénéficie des conseils de son directeur spirituel, Saint Claude de la Colombière, qui voit en l'Immaculée Conception la source, je le cite, de tous les privilèges qui ont été accordés à la Sainte Vierge. Il rapporta aussi les paroles de Jésus, reçues par Sainte Marguerite Marie à la Coque dans son livre intitulé « Retraite spirituelle ». Une première fois, le 27 décembre 1673, en la fête de Saint-Jean, l'apôtre et évangéliste, qui reposa sur la poitrine du Seigneur, Jésus accueille la jeune religieuse, Sainte Marguerite Marie à la coque, contre son cœur et lui révèle les trésors de son amour. Puis, en juin 1675, un peu moins de 2 ans plus tard, Jésus révèle plus largement encore ses secrets. Je le cite, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, nous dit Jésus à Sainte Marguerite Marie à la coque, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. » Le 2 juillet 1668, la Sainte Vierge apparaît à Sainte Marguerite Marie au monastère des Visitandines de Paray-le-Monial. Au centre de cette vision se trouve le cœur transpercé de Jésus, véritable brasier d'amour, et à sa gauche, Saint François de Sales, un autre grand amoureux de la Vierge Marie, que je vous invite à réécouter dans les émissions précédentes, ainsi que 2 marches plus bas, Saint Claude de la Colombière, qui a guidé son âme jusqu'à sa disparition, 6 ans plus tôt. S'adressant aux visitandines, Marie, notre maman du ciel, désigne le cœur de son fils Jésus en disant « Je veux vous rendre comme les dépositaires de ce précieux trésor que le divin soleil de justice a formé dans la terre virginale de mon cœur, où il a été caché 9 mois, après lesquels il s'est manifesté aux hommes, qui, n'en connaissant pas le prix, l'ont méprisé parce qu'ils l'ont vu mêlé et couvert de leur terre. » Puis, se tournant vers Saint Claude de la Colombière, Marie ajoute « Pour vous, fidèles serviteurs de mon divin Fils, vous avez grande part à ce précieux trésor, car s'il est donné aux filles de la Visitation de le connaître et distribuer aux autres, il est réservé au Père de votre compagnie d'en faire voir et connaître l'utilité et la valeur, afin qu'on en profite en le recevant avec le respect et la reconnaissance due à un si grand bienfait. » Dans cette belle histoire au XVIIe siècle entre la France et Marie, ce magnifique vœu du roi Louis XIII qui consacre sa personne et tout son royaume à notre maman du ciel, et la Vierge Marie accompagne la France en multipliant les apparitions. C'est incroyable, à Cotignac en Provence et puis en Bourgogne, à Paray-le-Monial, où une simple religieuse, une visitandine, Sainte Marguerite Marie à la coque, reçoit la Vierge Marie qui lui explique ce grand secret du Sacré-Cœur, ce don pour toute l'Église. Et alors, la Vierge Marie et Jésus notamment vont demander à Sainte Marguerite Marie une chose bien particulière. Nous sommes le 17 juin 1689. « Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, c'est-à-dire au roi de France, » Jésus qui parle à Sainte Marguerite Marie, que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. Triompher du cœur du roi signifie que Jésus demande la conversion du roi Louis XIV est de sa cour, qui commence à construire Versailles. À l'époque, cette cour de Versailles vit de manière de plus en plus mondaine, bien loin de l'idéal chrétien. Le Sacré-Cœur, donc, veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis et pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Comme Louis XIII avait consacré la France à Marie, Louis XIV doit consacrer la France au Sacré-Cœur. Voilà ce que demande Jésus. Et dans une autre lettre, au mois d'août 1689, notre sainte Marguerite Marie à la coque recommence, renouvelle cette demande du Christ. Je la cite, « Le Père éternel voulant réparer les amertumes et angoisses que l'adorable cœur de son divin fils a reçu dans la maison des princes de la terre, veut établir son empire dans le cœur de notre grand monarque, duquel il se veut servir pour l'exécution de ce dessein, qu'il désire voir s'accomplir en cette manière, qui est de faire un édifice où serait le tableau de ce divin cœur pour y recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la cour. » Sainte Marguerite Marie à la coque, veut faire passer ses demandes de Jésus à Louis XIV par le confesseur du roi, le Père Lachaise, ami de l'ordre de la Visitation. Est-ce que ces lettres vont lui parvenir? Fait-il à son tour parvenir le message à Louis XIV, le confesseur du roi? Pas évident, c'est Louis XIV, le roi soleil. Et le roi, s'il reçoit le message, lui accorde-t-il crédit? Il est plus facile aujourd'hui de reconnaître l'authenticité des révélations à Sainte Marguerite Marie depuis qu'elle a été canonisée et puis que la dévotion au Sacré-Cœur est répandue sur toute la terre. Mais du vivant de Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle, comment savoir s'il s'agissait d'une authentique messagère de Jésus ou d'une fausse mystique? On dit que le roi aurait répondu à Madame de Maintenon et à un cardinal « on ne commande pas le roi ». Et on sait, par ailleurs, qu'il alloue une forte somme à Saint-Jean Eudes, qu'on avait vu également dans une précédente émission, autre grand amoureux de la Vierge Marie, qui construira à Caen la première église dédiée au Sacré-Cœur. Donc Louis XIV était quand même un peu touché. Toujours est-il que la consécration au Sacré-Cœur demandée par Jésus n'a pas lieu. Et à partir de là, tout change. En regardant attentivement l'histoire du règne de Louis XIV, il apparaît que le roi ne connaît quasiment que des victoires jusque ces années, mais vers 1689, et qu'après cette date, les défaites se multiplient. Louis XIV subit aussi la mort des trois enfants qui auraient dû lui succéder, son fils aîné en 1711, son petit-fils en 1712 et son arrière-petit-fils la même année en 1712. Et en ce début de XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie s'introduit en France, et malgré les condamnations des différents papes, Clément XII, puis Benoît XIV, au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, elle séduit un certain nombre de catholiques, affaiblissant ainsi le lien traditionnel qui unit la France à Rome, au siège de Saint-Pierre, depuis le Moyen-Âge. Finalement, le 17 juin 1789, soit 100 ans jour pour jour après la demande de Jésus à Paray-le-Monial, le tiers-état mené par un certain abbé Seyès, qui d'ailleurs va défroquer quelques années plus tard, et par Mirabeau, noble déclassé, se proclame Assemblée nationale, puis Assemblée constituante. C'est le basculement vers la Révolution qui renverse la monarchie, bannit bientôt le culte catholique et mène finalement contre le clergé une persécution terrible telle que la France n'en avait plus connue depuis les persécutions au temps de l'Empire romain. Au début de l'année 1792, pris dans la tourmente révolutionnaire, Louis XVI, en concertation avec le père Hébert, son confesseur, prévoit, s'il parvient à rétablir son autorité royale, de consacrer la France au Sacré-Cœur. Mais la monarchie tombe le 10 août et Louis XVI n'a jamais l'occasion de réaliser ce beau projet. Mais pendant toutes ces difficultés ou ces hésitations des rois monarchiques, Marie, elle, notre maman du ciel, n'abandonne jamais ses enfants, car elle continue à apparaître à certaines de ses filles les plus humbles. Marie reste le refuge des pécheurs, comme on aime à la désigner au sanctuaire du Lot, à 900 mètres d'altitude dans les Alpes, à 200 km à peu près au nord-est de Marseille et à 150 km à l'ouest de Turin. Autre magnifique lieu, nous allons nous arrêter quelques instants. Au début du règne de Louis XIV, les Alpes du Sud sont une des régions les plus désolées du royaume. La population, après les ravages des guerres de religion, ou il faudrait dire des guerres politico-religieuses, puisque souvent la religion est un prétexte, et derrière ce sont souvent des intérêts politiques, de pouvoir, cette région a été décimée par la guerre et par la peste. Les habitants tirent leurs ressources de parcelles de céréales et de chanvre, de noyers et de vignes qui donnent l'huile et le vin. On exploite des carrières de plâtre, quelques forêts et de maigres pâtures où paissent brebis et chèvres. Au-dessus du village de Saint-Étienne-le-Lot, petit village appartenant alors au diocèse d'Embrun, au mois de mai 1664, la Vierge Marie apparaît à une bergère de 17 ans, la vénérable Benoîte Rancurel, habitant avec sa modeste famille au village. Ayant perdu, malheureusement, son papa à 7 ans, elle devient bergère à 12 ans pour aider sa mère et ses deux sœurs. Ne sachant ni lire ni écrire, elle prie à longueur de journée le chapelet, devenant ainsi une belle contemplative. Simple et pleine de vie, elle est proche des gens de son village et n'hésite d'ailleurs pas à donner sa nourriture aux enfants plus pauvres qu'elle. Après avoir entendu une homélie de son curé, la vénérable Benoîte ressent le profond désir de rencontrer la Mère de Miséricorde. Peu après, Saint Maurice lui apparaît et lui annonce que son vœu sera exaucé. Et le lendemain, au vallon des Fours, à proximité du village, la vénérable Benoîte Rancurel voit une belle dame, près d'une faille, tenant par la main un enfant d'une beauté extraordinaire. La bergère est saisie par tant de grâce. « Belle dame, que faites-vous là-haut? Venez-vous acheter du plâtre ?» À la question naïve de l'adolescente, la dame sourit, puis elle disparaît. Et à partir de ce jour, la belle dame visite quotidiennement la bergère et reste silencieuse pendant 2 mois. Ce silence ancre la vénérable Benoîte dans la contemplation et creuse en elle une disponibilité à accueillir le futur projet de Dieu. Puis la belle dame commence à parler. Elle éduque comme une vraie mère. Elle lui sert de maîtresse qui lui apprend, de directrice qui la conduit et de maman qui la corrige. Pour la préparer à sa future mission, Marie lui apporte une éducation intensive qui transforme son comportement et sa vie spirituelle. La vénérable Benoîte Rancurel, dans sa simplicité, ne se cache pas de ses apparitions, si bien que la rumeur s'en répand. Le juge de la baronnie d'Avençon, François Grimaud, convoque la voyante et effectue une enquête. Convaincu de la sincérité de la jeune fille, il autorise une procession sur le lieu où apparaît la dame. C'est le 29 août 1664. Ce jour-là, la belle dame révèle son identité. « Je suis Dame Marie, la mère de mon très cher fils. » Au total, les apparitions durent 4 mois au vallon des Fours. Fin septembre, après 1 mois d'absence, Marie se manifeste à nouveau, mais de l'autre côté de la vallée, à Pindreau. Et elle dit « Allez au lot, vous y trouverez une chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs. Et là, vous me verrez très souvent et très souvent vous me parlerez. » Le lendemain, la vénérable Benoîte Rancurel se rend au hameau du lot, tout proche, et trouve donc cette chapelle de bonnes rencontres grâce au parfum. Cette chapelle avait été édifiée une 20aine d'années plus tôt et était déjà abandonnée. À l'intérieur, debout sur l'autel, Marie lui dévoile son projet. « J'ai demandé ce lieu à mon fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a accordé. Je demande que l'on fasse construire ici une église où beaucoup de pécheurs viendront se convertir. C'est là que vous me verrez très souvent. » Marie demande à la jeune fille de prier sans cesse pour les pécheurs. Marie confie ainsi à la vénérable Benoîte Rancurel la mission de faire construire une église et une maison pour les prêtres afin qu'ils reçoivent et confessent les pèlerins. De ce jour, la vénérable Benoîte se rend quotidiennement au lot où la Vierge poursuit sa formation, lui apprenant à s'ouvrir à Dieu et aux autres, à maîtriser son impétuosité naturelle, à exercer son jugement et surtout à entrer dans une voie de pauvreté, de renoncement intérieur. Dès le printemps 1665, les pèlerins affluent au lot. Ils seront environ 130 000 en 18 mois, entre 1665 et 1667. Après enquête, le vicaire général d'Embrun approuve la construction d'un sanctuaire. Il est achevé en 1670 et il enchâsse la petite chapelle d'origine de Bonnes Rencontres. La vénérable Benoîte s'y établit pour aider les chapelains et remplir la mission que lui a confié la Vierge, contribuer à faire du lot un lieu de conversion. Douée de charisme, de conseil et de clairvoyance, sœur Benoîte, on l'appelle ainsi depuis son entrée dans le tiers ordre de Saint-Dominique, se met au service de Dieu en servant inlassablement ses frères, entre les travaux des champs et l'entretien du sanctuaire. Bien sûr, il y a eu dès l'origine des détracteurs, des opposants, mais ils ont été désarmés par la vertu de la vénérable Benoîte, par la ferveur des pèlerins, par la vigueur de la dévotion qui pousse les foules au lot où se multiplient guérisons et conversions. Entre 1669 et 1684, la vénérable Benoîte Rancurel bénéficie 5 fois de la vision du Christ crucifié sur la croix d'Avançon. Ainsi unie à lui, elle vit une crucifixion mystique chaque vendredi pendant plusieurs années. Jésus lui fait comprendre l'amour infini qu'il a pour les pécheurs et l'invite à communier à ses souffrances pour les sauver. En 1692, malheureusement, l'opposition se réveille lors de la guerre avec la Savoie qui ravage la contrée et dévaste le sanctuaire, tandis qu'une caricature du jansénisme gagne la région. La vénérable Benoîte vieillit, ses proches sont morts, les nouveaux chapelains lui sont hostiles, la tourne en dérision, rebute les pèlerins par leur rigorisme et leur accueil glacial. On interdit même à la voyante l'accès à l'église, sauf le dimanche. On la traite d'épileptique, on lui interdit même d'approcher les pèlerins. Et les visites de la Vierge Marie se font plus rares. La vénérable Benoîte connaît l'épreuve de la solitude, du combat spirituel, mais elle tient bon. Pendant 20 ans, humble et fidèle à sa mission de prière, de pénitence et de réparation. En 1712, l'archevêque d'Embrun confie le sanctuaire à une équipe de missionnaires qui se font remarquer par leur zèle et leur piété. C'est la renaissance du lot, la dernière joie de la vénérable Benoîte Rancurel. Usée par sa vie de sacrifice, elle meurt le 28 décembre 1718 en réputation de sainteté. Le pèlerinage a résisté à la tourmente révolutionnaire. Pendant 54 ans, jusqu'à sa mort, la vénérable Benoîte Rancurel bénéficiera de grâces surnaturelles comme des apparitions, on l'a vu, des visions, non seulement de Marie, mais aussi de Saint Joseph et d'autres saints, également des âmes du purgatoire ou des anges. Elle assiste aussi à des guérisons miraculeuses par le pouvoir de Jésus-Christ, du corps et de l'âme. L'existence de parfums, d'huiles et de roses et de chants célestes ou des objets, des pierres ou des lettres, signe de la médiation divine. Mais la vénérable Benoîte Rancurel subira aussi les nombreuses attaques des démons. Son procès de béatification est en cours. Et aujourd'hui, je voudrais terminer par ça. Aujourd'hui, Notre-Dame du Lot est une oasis de paix. Je vous invite vraiment à y aller. Elle est un haut lieu, ce sanctuaire est un haut lieu de prière où sont venus se recueillir les poètes, écrivains et philosophes catholiques, entre autres Maurice Blondel, Henri Guéon, Paul Claudel ou Emmanuel Mounier. Au creux d'un vallon verdoyant à l'abri des sommets des Alpes, le sanctuaire de l'eau, du lot, c'est ce lieu privilégié de la Vierge Marie, propose une halte dans les trépidations du monde contemporain à un véritable havre de silence et de détente. Chers amis auditeurs de Radio Maria, je voudrais simplement terminer cette émission en vous annonçant le programme du mois prochain. Nous aborderons un autre amoureux de la Vierge Marie, Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, et nous aurons le temps de commencer à aborder le grand cycle des apparitions mariales du 19e siècle, le fameux M de Marie, à Paris, la rue du Bac, la Salette, à Lourdes, à Pontmain et à Pellevoisin. C'est un programme absolument magnifique que l'on doit à cet amour de la Vierge Marie pour notre pays, la France.
Eh bien, merci à nouveau, Franck, pour cette belle émission. Et on attend, voilà, ce grand M et cette belle histoire encore qui continue entre la France et Marie le mois prochain.
Avec une grande joie. Au revoir à vous, Jérôme, et à tous les auditeurs.
Au revoir, Franck. À bientôt.